Les risques et les exigences réglementaires ne cessent d'augmenter, et vos clients souhaitent des garanties de sécurité avant de s'engager. C'est précisément là que Vanta intervient. Vanta centralise et automatise la gestion des risques, la conformité et la confiance client au sein d'une seule plateforme propulsée par l'IA. Que vous prépariez votre SOC 2 ou que vous pilotiez un programme GRC, Vanta vous aide à rester sécurisé tout en accélérant vos cycles de vente. Suivez l'exemple de Conto et Pigment, réduisez votre temps d'audit de 82%. Lancez-vous sur Vanta.com.
Cet épisode de L'Heure du Monde est soutenu par Audi Business. Aujourd'hui, les critères environnementaux prennent une place croissante dans les décisions de flotte des entreprises. L'Audi Q6 e-tron répond à cet enjeu. Première et unique de son segment à obtenir le label EcoScore avec 70% d'abattement sur l'avantage en nature et 120 euros d'économie mensuelle. Tous les détails sur audi.fr. Audi Business est le programme sur mesure dédié aux professionnels. Au 18 juin 2026, l'Audi Q6 e-tron Performance est le premier SUV du segment B à obtenir le label EcoScore. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Oui, allô ?
Coucou papa, je te dérange pas ?
Coucou. Non, vas-y.
Je ne suis pas sûre à 100%, mais que j'ai trouvé une possible fosse commune où ton grand-père pourrait être enterré.
Ah bon ?
En fait, j'avais déjà toutes les informations nécessaires pour trouver cette fosse. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas comment les exploiter. Et puis, au fil de mes recherches, je suis tombée sur une carte interactive du gouvernement espagnol. Depuis 2011, les autorités recensent progressivement toutes les fosses communes du pays et les cartographient. Pour chaque fosse commune, il y a un petit paragraphe explicatif. Alors une à une, j'ai cliqué sur toutes les fosses communes aux alentours de l'endroit où mon arrière-grand-père est mort, jusqu'à ce que je tombe sur une fosse qui corresponde.
Et en fait, il y a une fosse, où, bon, je te lis la traduction qui n'est pas très bonne, mais possible lieu d'enterrement de soldats morts comme à conséquence, donc en conséquence des offensives républicaines sur la tête de pont de Balaguer entre avril et mai 1938. Le 22 mai, les forces républicaines de la 72e division, donc sa division, occupent cette position. Les combats dans cette zone ont été d'une violence extrême et ont terminé avec la perte de la position, mais pas sans avoir causé un nombre très élevé de pertes de soldats républicains. Il ne détaille pas le nombre de pertes concrets, mais entre ce sommet et une située à l'ouest, 500 morts ont été comptabilisés. Et donc on a... Donc, un nombre de morts important à la date qui correspond avec sa division à lui, à l'endroit où on dit qu'il est mort. Donc, je veux dire, c'est assez concordant, quoi.
Oui, c'est assez vraisemblable, oui. Et toi, tu voudrais y aller ou...
Bah oui.
Moi, j'aimerais bien y aller avec toi.
Après toutes ces années, je n'ai aucun espoir, évidemment, de récupérer des ossements identifiables. Et il n'y a sans doute pas grand-chose à voir, mais après tant de recherches, on touche enfin au but. J'ai le sentiment que retrouver la fosse commune de mon arrière-grand-père pourrait être une manière de réparer la mémoire de notre famille. Alors on décide d'y aller, mon père et moi, ensemble.
La personne sacrée de l'Espagne est en danger.
Vamos contra el fascismo!
Los hombres más heroicos del mundo!
Le mot de passe arrive à l'Espagne.
J'ai enquêté sur la mort de mon arrière-grand-père républicain espagnol et la mémoire des victimes de la dictature franquiste. Je m'appelle Garance Munoz et vous écoutez Espagne, l'écho du silence, une série historique et intime réalisée par Amandine Robillard. Épisode 5, la mémoire retrouvée.
Esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta.
Après la mort de Franco en 1975, l'Espagne entre dans la période que les historiens appellent la transition démocratique. C'est-à-dire que progressivement, sans révolution, presque sans heurts, le pays devient une démocratie. pas de révolution, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de remise en question officielle de la dictature. Franco avait eu le temps de préparer sa suite. Il avait confié son pouvoir à Juan Carlos, qui est proclamé roi d'Espagne.
Manifestamos a la nación española.
Nous annonçons à la nation espagnole que Don Juan Carlos des Bourbons et Bourbons est proclamé roi d'Espagne.
Que reinará con el nombre de Juan Carlos I.
Et qu'il régnera sous le nom de Juan Carlos Ier, avec le souvenir ému de Franco. Vive le roi, vive l'Espagne.
Viva España!
Les partis issus du camp républicain profitent de ce changement pour faire pression et obtenir leur légalisation. En 1977, ont lieu les premières élections libres. Et quelques mois plus tard, une loi d'amnistie est promulguée. Et cette loi va être très importante dans toute l'histoire qui suit, celle de l'Espagne contemporaine. C'est ce que m'a expliqué l'historienne Sophie Babi, qui a publié aux éditions La Découverte l'ouvrage Jugé Franco.
La première loi qui est adoptée à ce moment-là, à la quasi-unanimité, et qui a une portée symbolique gigantesque, c'est une loi d'amnistie, qui en fait... Celle symboliquement la fin de la guerre civile et la fin de la dictature, donc celle symboliquement la réconciliation des Espagnols.
Les républicains sont réintégrés dans leurs droits, les prisonniers politiques sont libérés, on accorde des pensions aux invalides, aux veuves et aux orphelins. Mais est-ce que c'est suffisant pour le camp républicain ?
Cette loi d'amnistie, on en parle beaucoup aujourd'hui, si on part du présent, parce qu'elle est décriée comme étant une loi d'impunité, donc une loi qui a garanti l'oubli du passé et pire encore, l'impunité des criminels franquistes, des criminels de la dictature. Pourquoi ? Parce que c'est une loi d'amnistie à double sens, réciproque, mutuelle, c'est-à-dire une loi qui amnistie autant les prisonniers politiques, ce qui était l'objectif numéro un de cette loi, que les agents de la dictature qui potentiellement pourraient être poursuivis à l'avenir pour avoir violé les libertés et droits fondamentaux dans la poursuite de l'opposition antifranquiste.
Cette loi met donc à égalité les souffrances des deux camps. Malgré les exécutions extrajudiciaires, les crimes de guerre, la répression, l'utilisation de la torture, malgré les 150 000 personnes environ mortes de la main des franquistes, il n'y a aucune condamnation juridique ou même morale de la dictature de Franco.
Alors Franco, bien sûr, n'a pas été jugé et aucun criminel de guerre du côté franquiste n'a non plus été jugé puisque la loi d'amnistie, c'est son principe même, empêche toute procédure judiciaire sur les délits qui se sont passés avant 1977.
Pas de jugement et un silence qui continue de peser sur les familles de républicains. Personne n'ose publiquement réclamer une dépouille enterrée dans une fosse commune, par exemple. Il faut attendre l'an 2000 pour que les choses changent. Pour la première fois de l'histoire, un Espagnol réussit à organiser une exhumation scientifique d'une fosse commune.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Emilio Silva.
Et tu es le petit-fils de...
D'Emilio Silva Faba, qui fait partie des 13 corps qui sont enterrés ici, dans cette fosse.
Et ils sont morts, fusillés.
Pendant l'année 1936.
Dans cette archive, Emilio Silva Barrera a 35 ans. Il est interviewé juste devant la fosse commune de son grand-père. On voit les scientifiques qui fouillent le sol à la recherche d'ossements sous les regards des familles agrippées aux barrières qui entourent la fosse. Emilio voulait écrire un livre sur la guérilla de résistance à Franco dans la région de son enfance. Et par hasard, il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit où se trouvait la fosse commune de son grand-père. Il a organisé l'exhumation du corps et des 12 autres qui se trouvaient là. Puis il a décidé de consacrer sa vie à ce combat, en fondant l'Association pour la récupération de la mémoire historique. Finalement, je fais un peu comme lui, 26 ans plus tard. Alors j'ai voulu le rencontrer, et il a accepté de me retrouver dans un café à Madrid.
Hola, buenos días. Un café con leche.
Emilio a aujourd'hui 65 ans, et sa barbe est devenue poivre et sel. Mais il se souvient de l'ouverture de la fosse comme si c'était hier.
Yo quería Identificar a mi abuelo y enterrarlo con mi abuela. Mi abuela había muerto.
J'avais envie d'identifier mon grand-père et de l'enterrer avec ma grand-mère. Ma grand-mère est morte en juillet 1997, c'est-à-dire 3 ans avant l'exhumation. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance et dans mon adolescence avec elle. Elle n'a jamais mentionné mon grand-père, ni en bien, ni en mal. En fait, il n'existait pas. Elle l'avait fait disparaître jusque dans sa voix. Elle n'a pas eu à l'enterrer car on ne le permettait pas à ces familles après les meurtres. On ne leur permettait même pas d'afficher publiquement leur souffrance. Elle ne pouvait pas porter le deuil. Elle devait vivre comme si ces crimes n'avaient pas eu lieu.
Tenían que vivir como si esos crímenes no hubieran ocurrido. Y yo ya iba un poco nervioso y ahí
j'étais déjà un peu nerveux. Et là, juste à l'entrée de la ville, il y avait un homme qui se promenait. Je lui ai demandé s'il pouvait nous aider. Je lui ai dit que nous cherchions une fosse datant de la guerre. L'homme marchait, les mains derrière le dos, et il a tendu le bras. Il y avait 3 arbres là, au bord du fossé, 3 noyers. Et il a dit, la fosse se trouve au milieu de ces noyers. Alors, 2 ou 3 semaines plus tard, un groupe composé de scientifiques forensiques, d'archéologues, d'une biologiste, ont exhumé la fosse. Il y avait 13 corps. C'était la première fois qu'une fosse commune était exhumée en Espagne. Ça a été comme un Big Bang médiatique. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça affectait des milliers et des milliers de personnes.
Et là, c'est quand nous nous rendons compte que ça affectait des milliers et des milliers de personnes.
C'est ce que l'historienne Sophie Babi appelle le choc des fosses, un tournant mémoriel majeur en Espagne.
Il y a ces images absolument impressionnantes de tombes ouvertes avec des corps, des squelettes qui sont présents, qui sont complètement, comment dire, désarticulés, parfois dans des positions, donc, non pas d'un enterrement digne de ce nom, mais de corps jetés dans des fosses. Et puis ces visages de vieilles femmes qui pleurent devant les fosses ou qui sont des visages fermés, remplis d'émotions, parfois portant le crâne de leur oncles, de leurs pères, de leurs frères qui ont été assassinés et dont on retrouve les corps et qui sont ensuite réinhumés dans des caveaux, soit collectifs, soit familiaux, de façon digne, avec une cérémonie, etc. Et puis, donc en fait, l'Espagne découvre en fait, la réalité de ces fosses communes et qui sont symboliques, qui révèlent quelque chose qui était cette grande répression.
À partir de là, le pays va ouvrir des archives et tenter de soulever le voile du silence qui obscurcit la mémoire. Peu à peu, on réalise qu'il y aurait plus de 114 000 personnes dans des fosses communes, comme mon arrière-grand-père et tant d'autres morts pendant la guerre et la répression qui a suivi. Oubliés depuis plus de 60 ans, et dont les descendants, en Espagne mais aussi en France, réclament de pouvoir enfin se recueillir. Alors en 2007, le gouvernement socialiste adopte une première loi sur la récupération de la mémoire historique.
Donc ce premier moment mémoriel s'arc-boute surtout donc sur la quête d'être disparu et aussi sur la volonté de faire disparaître de l'espace public les traces du franquisme. Donc la prise de conscience en quelque sorte de la visibilité du franquisme dans l'espace public et de la nécessité d'y mettre un terme. Donc par exemple, en déboulonnant les dernières statues équestres de Franco, en changeant la toponymie urbaine, le nom des rues, des places, etc. Et puis elle fait un pas aussi en avant important vers l'exhumation des fosses, sauf que ces exhumations sont toujours du ressort des familles et des associations. Ce n'est pas une initiative du gouvernement que d'aller à la recherche de ces fosses.
Un manquement, d'après les associations de mémoire, que vient réparer une seconde loi en 2022.
Cette loi mémorielle de 2022, donc, elle constitue à la fois une étape supplémentaire et, je dirais, une forme de rupture par rapport à la loi précédente. C'est-à-dire qu'elle élargit encore les catégories de victimes destinées à recevoir une réparation. Mais c'est surtout là ce qui est absolument essentiel, c'est qu'il y a un renversement, en fait, du discours et du récit. Que pour la première fois, l'État endosse très clairement la responsabilité, l'obligation de l'État d'aller chercher ces fosses communes et de restituer le corps aux familles. Et puis, c'est pour la première fois aussi, donc, cette loi renverse les discours en affirmant clairement, sans détour, la supériorité d'une légitimité sur une autre, c'est-à-dire la supériorité de la légitimité démocratique sur la légitimité franquiste. Donc en condamnant sans détour le coup d'État, le régime de Franco, en le déclarant donc comme un régime illégal et illégitime, donc tout ce qui découle du régime est illégitime, donc toutes les sentences, hein, toutes les lois, tous les textes, tout ce qui est issu du régime est considéré comme illégal et illégitime. Et à l'inverse, donc, les valeurs démocratiques sont affirmées sans détour.
Il aura donc fallu attendre 2022 pour que le régime de Franco soit officiellement condamné. Mais bien que ces lois mémorielles existent, aujourd'hui encore, de nombreuses traces du franquisme restent visibles. À Madrid, en sortant de notre café, Emilio Silva me propose une sorte de visite guidée des stigmates du franquisme. Alors on prend sa voiture à travers les rues madrilènes et je prends conscience de l'ampleur de ces vestiges. Par exemple, il y a l'Arc de Triomphe de la Porte de Moncloa, qui célèbre la victoire de Franco en 1939, et qui trône toujours à deux pas du siège du gouvernement. Ou bien encore des noms de rues, comme la rue des tombées de la division Azul, les soldats franquistes envoyés en soutien à l'Allemagne nazie face à l'URSS, ou encore la rue de la Libération.
Ah, et bien ça, c'est la Libération, pour la libération que Franco dit avoir donnée à l'Espagne. Dans de nombreux villages, il y avait des noms de rues pour célébrer le fait que nous avions été libérés du communisme soviétique. C'est ce que Franco disait.
Et le gouvernement ne
la supprime pas, non. Alors que d'après la loi, elle ne devrait pas s'appeler comme ça. C'est une célébration de la victoire de Franco, c'est ça qui se passe dans cette rue. Et même si c'est illégal, personne ne fait rien.
Nous arrivons dans une partie de Madrid tout au nord, une petite banlieue cossue et calme au milieu des pins, appelée El Pardo. Les rois d'Espagne avaient l'habitude d'y faire des parties de chasse à travers les forêts. Et c'est devenu le lieu de résidence de Franco.
90% de la population qui vivait ici quand Franco est mort travaillait pour Franco.
L'église est plantée sur la place centrale. Jusqu'à peu, cette place s'appelait d'ailleurs la Plaza del Caudillo, du nom de guerre de Franco, en son hommage. Devenu illégal, le nom a dû changer.
Yo quería un descafeinado con leche fría en vaso, si puede ser.
Descafeinado normal.
Leche caliente.
No,
solo, un descafeinado solo.
Ah, solo.
Mais le café où s'attablent les habitants a gardé le nom Plaza del Caudillo sur les serviettes et sur le sucre. Un acte de défiance à la démocratie qu'attestent les votes pour l'extrême droite.
Ici, le pourcentage de vote pour Vox doit être sauvage. Doit être brutal.
De tous les vestiges du franquisme, le monument le plus impressionnant, le plus grand symbole du régime de Franco, c'est la vallée de los Caídos, un mausolée construit après la guerre à l'aide de 20 000 prisonniers politiques républicains condamnés au travail forcé. Imaginez un immense bâtiment en pierre blanche, doté d'un escalier majestueux et surplombé d'une croix de 150 mètres de haut. À sa mort, en 1975, Franco y est enterré. La vallée de los Caídos devient un haut lieu d'hommage au franquisme. En 2005, alors étudiante, l'historienne Sophie Babis s'y rend.
J'étais allée à Valle de los Caídos en tant que jeune étudiante avec un collègue pour assister à cette commémoration du 20 novembre, à cette messe, et donc dans la basilique de Valle de los Caídos. C'était une scène digne d'un autre monde, d'une autre époque que je croyais révolue. J'étais replongée en pleine époque franquiste.
Ils chantent l'hymne officiel de la dictature passée. C'est le grand jour pour les derniers fidèles de Franco.
Avec des cara el sol, donc l'hymne phalangiste, des saluts fascistes, des jeunes et des moins jeunes brandissant le drapeau franquiste sans aucun complexe, la chemise phalangiste et tout ça était autorisé et banalisé dans l'enceinte de la basilique et à l'extérieur. Et il n'y avait aucune manifestation de protestation dans les rues contre ces manifestations pro-franquistes.
Pour mettre fin à ces démonstrations franquistes, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez décide d'exhumer le corps de Franco en 2019. Il est désormais enterré dans le cimetière de sa ville, El Pardo. Emilio m'y emmène.
Aquí.
Je m'attendais donc à voir une petite tombe discrète, à l'opposé de la vallée des Los Caídos. Eh bien, pas du tout.
Vous voyez ça? C'est l'œuvre d'un dictateur.
La tombe est immense. Une sorte de chapelle érigée en son honneur. 5 longues marches mènent à un hôtel pour s'y recueillir. Et la façade de la tombe est recouverte intégralement de drapeaux, de fleurs, de photos, portraits, rubans, petits mots, des dizaines et des dizaines d'objets insolites.
Bon,
bah, c'est un hôtel fasciste. Si quelqu'un installait un hôtel nazi comme ça en Allemagne, il finirait en prison. Mais ici, comme je disais, ça fait partie de notre paysage.
C'est impressionnant. Et complètement hors la loi. Mais personne ne semble s'en soucier. Un homme approche de la tombe. Il a une casquette Gavroche à la Peaky Blinders et un sac à dos de randonnée. Devant cet hôtel, il retire sa casquette et fait le signe de croix.
Pardon, señor, ¿eres español?
Yo sí.
Je lui demande ce qu'il fait là.
Turismo.
Du tourisme.
Vous paraissez normal.
Et ça vous semble normal qu'il y ait autant de décorations?
Décoration.
Eh bien, il y a plein de gens avec des opinions différentes. Il y en a qui continuent à soutenir ces idées-là, d'autres qui soutiennent des idées différentes. C'est ça la liberté. Chacun est libre d'exprimer son opinion. Il y a aussi des gens qui brandissent le drapeau communiste. Chacun défend ses propres convictions. Toujours dans la paix et la sérénité.
Siempre en paz. Y tranquilidad.
Gracias.
Emilio n'a pas l'air surpris de cette rencontre. Il me dit que l'homme était sûrement franquiste, mais qu'il n'assumait pas, et que toutes ces décorations ne sont pas arrivées toutes seules sur cette tombe. Un autre homme arrive. D'abord réticent face à mon micro, il accepte finalement de nous répondre, à moi et la photographe qui m'accompagne.
Si, de Francia.
De Francia.
Si.
Ah, de France. En plus des jolies filles et polies.
Je réprime ma gêne et lui demande si c'est la première fois qu'il vient.
Je suis venu 4 ou 5 fois avec ma copine, parce que j'aime la figure de cet homme.
Pourquoi?
Parce qu'il fallait mettre un peu d'ordre, et il a eu une main de fer. Il a fait des choses très bien pour tout le monde.
Comme quoi?
Il a construit des infrastructures dans toutes les régions. Tout ce qu'il y a ici en Espagne, c'est grâce à lui.
Cet entrepreneur dans le bâtiment a 57 ans. Et il exprime là le récit parfait de la propagande franquiste. Par exemple, ce mythe du miracle économique des années 60. Les grandes entreprises qui ont permis cette croissance ont en fait surtout profité du travail forcé des prisonniers politiques pour construire routes et barrages. Mais ces prisonniers, comme les victimes républicaines, ont été laissés dans l'ombre de la mémoire collective. Oubliés. En espagnol, olvidados.
Los olvidados de Pedro Pastor.
Les oubliés de Pedro Pastor. Cette chanson, c'est comme un hymne de la mémoire.
Y esta canción, esto es como un himno ahora. En el mundo de la memoria.
La memoria, los perseguidos.
À moi de retrouver mon oublié.
Ouais, c'est ça, elle est juste là. En fait, c'est la rue d'après, à gauche, à droite.
Je rejoins mon père à Barcelone. Nous avons loué une voiture pour nous rendre là où je pense que se trouve la fosse commune de mon arrière-grand-père.
Alors, d'abord, il faut savoir où est-ce qu'on va.
Vous vous souvenez de cet endroit que je vous ai décrit dans le deuxième épisode, la région où a eu lieu la bataille de l'Ebre en 1938, tellement décisive pour la victoire de Franco? Eh bien, c'est là. J'ai seulement un point, une géolocalisation sur une carte, mais je ne sais même pas si l'endroit est accessible, public.
Quand on sera dans le village, il faut le traverser et à un moment, il y a une route qui part à droite. Et, là, bah, ça va être un peu à l'œil. Quoi. Après, c'est tout droit.
Mais il y a une indication
Ben...
Je suis pas sûr.
On verra.
Après 2 heures de voiture, nous arrivons sur une route sinueuse qui passe à travers champs.
El Fondo de Segrelo Molinyol, c'est ça? C'est Molinyol?
Ouais, Molinyol, ouais.
Bah, tu peux peut-être mettre les montures là.
Qu'est-ce que ça raconte là, fais voir.
Bah si, c'est le Molinyol, 420 mètres, donc faut marcher.
D'accord.
C'est fléché, l'endroit est indiqué, donc ça signifie que c'est accessible. Un petit chemin caillouteux monte vers une colline. Nous commençons à gravir la côte, en silence.
On va, c'est ici.
À front de Segre. Le front du Segre. Hein.
Je sens l'émotion qui m'étreint la gorge.
Ah ouais, c'est ça. Eh ben, c'est... J'aurais pas cru être pris par l'émotion comme ça, tu vois.
Je ne m'attendais à rien. Un vague champ où je n'aurais eu aucune certitude, et me voilà à l'endroit exact, précisément indiqué où est tombé mon arrière-grand-père. Il y a même une plaque d'hommage pour tous ceux qui moururent pendant les combats.
Les jours 22, 23 et 24 de mayo. Et après ça, de la 72e. C'est la sienne.
Sur la position de 54, les fascistes résistaient. Les fascistes ont résisté aux attaques, laissant dans les alambradas, c'est les fils de fer barbelés, tu vois.
Oui, c'est ça. Donc en fait, le 22 mai, ils arrivent à conquérir cette position, et ensuite c'est l'armée franquiste qui revient. L'après-midi de ce même jour, elle reconquit la côte. Les communiqués de l'armée franquiste annoncèrent 500 morts républicains contre 19 morts franquistes.
500 morts en 3 jours, hein, sur une surface aussi faible, c'était un massacre. Ils ont dû être bombardés à faux jour.
Malgré tout, cet endroit est beau. La colline surplombe une immense plaine, recouverte d'oliviers et d'amandiers en fleurs.
Ah, t'es en hauteur, tu domines tout ça. Hein.
Ouais.
Le soleil brille, les oiseaux chantent. C'est à la fois difficile de s'imaginer un champ de bataille et facile de comprendre pourquoi cette position géographique surélevée était optimale d'un point de vue militaire.
Moi, je suis en train d'imaginer ramper. Ça, je sais pas si c'était une ligne qui existait déjà, mais... Parce que là, tu vois, il y a plein de trucs qui sont un peu détruits où tu peux te dire que ça, c'était peut-être un peu des tranchées qu'ils avaient fait et ça s'est écroulé.
C'est possible, oui. Des positions, des points d'observation, des tranchées, des avant-postes, ouais. Ouais, c'est possible. Hein.
C'est tellement étrange d'être ici. Et ce que je ressens est complexe. À la fois de la tristesse d'imaginer le corps sans vie de mon arrière-grand-père, abandonné sur des barbelés avant d'être jeté dans une fosse, là, sous mes pieds. À la fois, je me sens apaisée de voir cet endroit. De voir que c'est calme, que c'est beau, et que soudainement le vide, l'absence de lien que j'avais avec lui, vient de se remplir. Mon père, lui, tient à rendre hommage à son grand-père.
Ay, cassez-le, on salue à la voile.
Il lève le poing vers le ciel
Ah bah oui.
Et crie « Vive la révolution, grand-père !»
Allez, viva la révolution, abuelo. Ah bah, hein.
Je t'en fais faire des choses.
Ah oui, donc. Ah non, non, non. Naomi aurait aimé qu'on lui raconte ça. Hein. Ouais.
Naomi, ma grand-mère qui aura grandi et vécu sans son père. Et nous, on y est. On a trouvé la sépulture.
Est-ce que si jamais, je sais pas, un jour, il l'ouvre et il récupère, est-ce qu'on aura envie de le mettre ailleurs ?
À supposer qu'il soit identifié. Ouais.
Mais en fait,
ah oui,
ouais. Mais je trouve que l'endroit est tellement beau et paisible que finalement, c'est pas mal en fait comme lieu de sépulture.
Rester là, c'est possible. Ouais. Avec ses camarades.
Nous rentrons à Lérida. La ville où nous passons la nuit. Le soleil vient de se coucher quand j'entends de la musique, une fanfare. Je découvre que c'est le dernier soir du carnaval. Et je ne le savais pas, mais la tradition, c'est de terminer par une procession funéraire qui symbolise la fin du chaos et le retour à l'ordre. Devant mes yeux ébahis, une carriole passe devant moi, portant un cercueil décoré d'une couronne de fleurs.
Des dizaines de personnes la suivent. Elles crient, elles applaudissent. Après avoir trouvé la fosse commune de mon arrière-grand-père, j'assiste à un enterrement. Et j'ai le doux sentiment d'avoir honoré cette mémoire familiale et de me sentir enfin entière. Vous venez d'écouter Espagne, l'écho du silence. Rédaction en chef, Adèle Ponticelli, Sophie Larmoyer et Thomas Baumgartner. Je m'appelle Garance Munoz et cette série a été réalisée par Amandine Robillard, aidée par nos collègues musiciens. Amandine, je te laisse les citer.
Cécile Cazenave à la trompette, Alexis Delcambre à la voix et Estelle Lavielle à l'alto.
Et c'est parti pour le moment Oscar. Merci à Vincent Nouvet et Robin Daout pour la documentation, à Léa Girardeau pour l'illustration, à Benoît Optin pour son aide et bien sûr à toute l'équipe de L'Heure du Monde. Merci aussi à Benoît Ballet pour le soutien sans faille et merci à mon père, Enrique Munoz, d'avoir accepté d'être embarqué dans cette aventure. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout.
Excusez-moi, bonjour, c'est le Crédit Agricole. Désolé de vous déranger en pleine écoute, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Ça vous dirait d'empocher jusqu'à 140 euros? Faut juste devenir client du Crédit Agricole. Vous ouvrez une formule éco, ça prend même pas 10 minutes. Vous touchez jusqu'à 140 euros et surtout vous en dépensez zéro. Même à l'étranger, il n'y a pas de frais. Alors, j'ai bien fait de m'incruster dans votre playlist, non? Bah oui, bah voilà. Bah ça me fait plaisir de faire plaisir, qu'est-ce que vous voulez? Éco, la carte gratuite qui vous met bien. Offre jusqu'au 27 juillet 2026, conditions sur crédit-agricole.fr.
On passe nos vacances à faire des choix. Barbecue à la maison ou soirée à la plage? Avec Idealo, pour vos achats en ligne, plus besoin d'hésiter. Idealo compare pour vous les prix de millions de produits pour que vous trouviez ce dont vous avez besoin au prix qui vous convient. Économisez malin sur idealo.fr. Idealo, comparez vite et bien.
Dépasser les limites pour réaliser l'impossible. Voici ce à quoi les ingénieurs Audi travaillent chaque jour. L'Audi Q6 Citroën 100% électrique est le premier SUV de sa catégorie, labellisé EcoScore. Une prouesse technique qui offre aux professionnels de nombreux avantages fiscaux et toujours plus de valeur pour leur entreprise. Détails sur Audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.